passer le temps pour écouter la parole, c'est notre frère, le pasteur Thierry Mathieu, qui va nous apporter le message de la prédication ce matin. Merci Thierry pour ta présence parmi nous. Alors, Thierry s'est fait accompagner de deux de ses fils qui sont là, voilà, Jérémy et Samuel. Bienvenue à vous aussi, que le Seigneur vous bénisse. Merci mon frère pour tout ce que le Seigneur t'a mis à cœur de nous partager ce matin. Merci.
Alors, merci pasteur. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui rebondissent sur ce que le frère vient de dire et ce qu'il a dit tout à l'heure, pour ce qui concerne les deux garçons, c'est vrai que j'ai choisi les prénoms, ils n'ont pas été donnés au hasard.
Amen.
Que le Seigneur soit béni. Alors, c'est une joie pour nous d'être ce matin, en tout cas, d'être parmi vous, d'être accompagné de mes fils, parmi ceux qui sont présents. Brigitte n'est pas là ce matin, elle a son culte au Montmet. Alors, je propose une lecture, deux lectures en fait, dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4, et la seconde dans le livre du prophète Ésaïe. Alors je ne sais pas, il y a un hasard, je vais m'arrêter dans ma lecture là où le pasteur a commencé, vous comprenez pourquoi. Mais Seigneur est bon, hein, sa parole est vivante, elle est là pour nous encourager aussi. Donc Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, et il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le bois de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Comme chaque année, cette tradition ici et là, eh bien, même s'il y a un certain nombre de choses qui sont remises en question, c'est notre pays, hein, la présence des crèches sur les lieux publics, ce n'est pas le plus important. En tout cas, chaque année, nous fêtons Noël, chacun à sa manière. Et à l'approche de la fête, certains, beaucoup même, anticipent déjà, particulièrement les enfants, hein, ils aspirent. Ça me parle. Enfin, bien qu'aujourd'hui, ça a quand même changé. Hein. On commande d'abord au Père Noël ce qu'on voudrait. Hein. Avant, ce n'était pas comme ça, on n'avait pas les mêmes moyens. C'était une autre époque aussi. Et alors, on fait à cette occasion un certain nombre d'achats, que ce soit pour le repas de famille ou pour des cadeaux. Après s'être assuré, semble-t-il, celui qui conviendrait le mieux à ceux de notre entourage. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que cela donne lieu à de grandes réjouissances entre amis et de manière particulière en famille. Noël, c'est un petit peu la fête de la famille. Enfin, c'est ce qu'on dit à la religion, semble-t-il. Et c'est heureux. Mais en tout cas, est-ce que Noël, c'est tout ce que cela représente? Car le jour de Noël, c'est bien évidemment, c'est une réalité, mais c'est bien plus que cela, nous renvoie à un événement historique et exceptionnel qui a eu lieu en Palestine, bien évidemment, il y a plus de 2 millions d'années de cela. C'est l'histoire d'une naissance, mais pas une naissance comme les autres, d'une naissance particulière. Alors les paroles que nous avons lues de la part du prophète Ésaïe nous parlent d'un enfant qui devrait arriver au monde Et cet enfant aurait des prérogatives et un rôle particulier. Mais déjà, dans l'Épître aux Galates, Paul, lorsqu'il écrit aux chrétiens de l'église de Galatie, il leur apprend qu'en fait, que le moyen pour être réconcilié avec Dieu, ce n'est pas en essayant de mettre à tout prix la loi en pratique, ce qui est impossible, mais que Dieu a prévu quelque chose. Dieu a prévu un moyen afin de pouvoir donner à l'humanité, à chaque homme, à chaque femme sur cette terre, de pouvoir être réconcilié avec Dieu. Et c'est avec la venue d'un enfant, né d'une femme, et à la période que Dieu lui-même aurait décidé. Donc vous aurez compris qu'on est, il y a 2000 ans cela, on est parti dans l'Ancien Testament, et on revient. Alors, ici, Ésaïe, ces paroles qui ont été prononcées par le prophète dans un discours annonçant des jours sombres pour le peuple d'Israël, c'est ça le contexte, avec la venue bien évidemment certaine du jugement de Dieu sur lui. Alors, il y a quand même une raison d'espérer, car va se dessiner un avenir glorieux, puissant, où Dieu lui-même visiterait son peuple. Cela se ferait avec la venue d'un personnage particulier qui réaliserait en fin de compte tous les espoirs en rétablissant le droit et la justice. C'est bien évidemment le Messie, tant attendu par Israël de génération en génération. La grande majorité d'entre eux encore, eh bien, notre génération actuelle, eh bien, sont dans l'attente. Nombreux ont été ceux qui ont cru que ce Messie viendrait de manière comme un libérateur politique. Et pourtant, il n'en a pas été ainsi. Dieu a ses moyens, Dieu a son temps, Dieu a ses méthodes pour être en mesure de pouvoir se révéler. Et ce Messie, eh bien, il établirait un royaume qui commencerait avant tout dans les cœurs. Non pas comme frappant les yeux, mais dans les cœurs, dans les vies. Et ce royaume s'établirait, eh bien, dans la vie de chaque homme, de chaque femme, eh bien, qui ferait une expérience particulière, celle de la nouvelle naissance avec Dieu. Près de 8 siècles, bien évidemment, se sont écoulés entre l'annonce par le prophète Ésaïe, qui on considère que c'est le prophète, on va dire, entre guillemets, messianique, et un certain nombre d'annonces qui a été faites par lui en rapport avec la venue du Seigneur. Alors, le pasteur a lu tout à l'heure un texte, il y a d'autres événements dans les évangiles, eh bien, qui nous racontent les événements extraordinaires qui se sont produits autour de cette naissance miraculeuse. Il vous est né aujourd'hui, que le frère l'a dit tout à l'heure, dans la vie de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On dit que le célèbre peintre italien, Léonard de Vinci, quand il s'apprêtait à peindre le visage du Christ sur la fresque de la Seine, le dernier repas avec les disciples, un tableau qui est bien connu, se prépara d'abord dans la prière et dans la méditation. Pourtant, quand il prit son pinceau pour exprimer ses pensées, sa main trembla. Et je crois que c'est une telle attitude et une telle réaction qui conviennent quand on veut essayer de faire connaître les perfections et les souffrances du Christ. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pendant toute son existence terrestre, le Christ n'a jamais cessé d'être Dieu et homme à la fois. Et bien évidemment, c'est le mystère de l'incarnation. Et lorsque Paul écrit aux Philippiens, il nous apprend que le Christ, en venant sur la terre en tant qu'homme, a laissé pour un temps sa gloire céleste, celle qu'il partageait de tout temps avec le Père éternel. Cette gloire a été voilée, car en acceptant de devenir homme, il en a aussi accepté les limitations, celles que connaissent chacun d'entre nous, les limitations humaines. Pour venir parmi nous, la deuxième personne de la Trinité n'a pas hésité à abandonner sa gloire éternelle afin de devenir Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. La Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. la gloire de Dieu. Je crois que quand nous tournons vers l'infiniment grand, la science nous apprend par exemple que la Terre fait partie d'une galaxie appelée la Voie lactée et que la galaxie la plus proche, celle d'Andromède, se situe à 2,3 millions d'années-lumière. Sachant que la vitesse de la lumière est à peu près de 300 000 km/s. Il existerait aussi des milliers de galaxies, chacune d'entre elles contenant des milliards d'étoiles. En 1994 déjà, il a été découvert un groupe de galaxies qui se situerait à 650 millions d'années-lumière. Alors on peut essayer d'estimer la distance. Hein. Ces chiffres, en tout cas astronomiques, sans vouloir jouer sur les mots, bien évidemment, en taille, en distance et en quantité, nous dépassent complètement. On a beau essayer, là, le cerveau commence à bugger, ça nous dépasse. Alors, imaginez un petit peu la planète de la taille de la planète bleue, c'est-à-dire la Terre, par rapport au reste de l'univers. La Bible affirme cependant que Dieu compte le nombre des étoiles. Vous imaginez un peu. Et il leur donne à tout un nom. Cet univers que l'homme ne peut contenir. Le prophète Ésaïe déclare que Dieu prend les dimensions des cieux dans sa main. C'est de cela dont il s'agit ici. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Regardons aussi tout aussi rapidement vers l'infiniment petit. Savez-vous que l'homme, par exemple, est constitué de 100 000 milliards de cellules, avec des rôles variés qui servent à faire fonctionner le corps humain. Elles croissent, évidemment, elles travaillent, elles fonctionnent, se multiplient et finissent par mourir. Ces cellules contiennent des molécules qui contiennent à leur tour des structures appelées éléments, etc., rotants, neutrons, etc. On arrive ici, eh bien, dans l'infiniment petit. Les savants ont appelé tout cela, eh bien, l'énergie atomique. La Bible, quant à elle, déclare de son côté que Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Toute chose subsiste en lui. Si je me donne aussi la peine d'observer, je pense que vous l'avez certainement fait, à des moments, à un moment donné de votre vie, je peux voir la gloire de Dieu partout. Partout dans tout ce qui vit, qui m'entoure. J'y vois le sceau du Créateur et de l'architecte de l'univers. Cette gloire, frères et sœurs, eh bien, je la ressens dans le parfum d'une fleur de tiare, ou dans l'odeur des embruns de la mer. Je la vois, cette gloire, dans le réveil grouillon de la vie au printemps, ou dans la froideur du sommeil de l'hiver. Cette gloire, je l'entends dans le fracas des éléments déchaînés, dans le murmure du ruisseau peut-être, ou sinon le rire d'un enfant. Tout témoigne de sa grandeur et de son amour pour l'humanité. Car la Bible nous dit, en rapport avec Jésus, celui qui s'est incarné en devenant homme, car tout est de lui, par lui et pour lui. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux chrétiens, de la ville de Colosse, bien évidemment en lien toujours avec le Seigneur Jésus, leur apprend ceci, et il dira en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité spirituelle. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Je crois que si je mets je force le tir en lien avec ça, je crois que les événements de Noël, la naissance du Christ, toutes ces choses extraordinaires qui se sont passées autour, ne doivent pas nous faire oublier que Jésus n'est pas né à ce moment-là. C'est selon le langage humain. Jésus est de toute éternité. Et c'est dans le cadre de son incarnation, en venant parmi les hommes, qu'il est né, quand même. C'est ça qui fait toute la différence, frères et sœurs. Le psalmiste dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Soulignant ainsi la petitesse et la faiblesse de l'homme face à la grandeur de la création de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est pourtant de cette manière-là que le Fils de Dieu viendra habiter sur la terre parmi nous. Et il s'est souvent présenté, notamment de manière voilée dans les évangiles, comme étant le Fils de l'homme. En tout cas, dans la personne du Christ à sa naissance et pendant sa progression, eh bien rien ne laissait entrevoir en cet être fragile le Fils de Dieu en personne. Désormais, avec la venue de Jésus, l'histoire du monde ne serait plus du tout la même. Rien ne serait comme auparavant. Nous pouvons dire que Jésus, en venant sur la terre, eh bien, a donné un visage au Dieu invisible. Lorsqu'il est confronté à la misère ou à l'indifférence, aux joies et aux peines de ceux qu'il côtoie. Mais le paradoxe, bien-aimé, c'est que le roi de l'univers choisit de venir dans une famille des plus modestes, en ayant pour père nourricier, Joseph, un simple artisan. Il dut, lui, apprendre à marcher, apprendre à parler, à s'habiller comme tous les petits enfants du monde. En venant parmi les hommes, il a renoncé, et ça c'est une des prérogatives ainsi que les deux autres, à son omniscience, c'est-à-dire à la faculté qui consiste en tant que Dieu à tout connaître à l'instant même, pour apprendre par cœur les grandes portions de la loi juive, la Torah, afin de devenir à l'âge de 12 ans, comme tous ceux de son âge, eh bien, les Juifs, à la fameuse cérémonie de la Bar Mitzvah, eh bien, le fils du commandement. Alors qu'il est lui-même le Logos, la parole éternelle de Dieu. En venant parmi les hommes, il a aussi renoncé à son omniscience, c'est-à-dire la faculté d'être présent partout, en tout lieu, au même moment. En prenant un corps limité et fragile, parfois fatigué de marcher lorsqu'il allait de lieu en lieu sur les chemins de Palestine. En venant parmi les hommes, il a aussi renoncé à son omnipotence, c'est-à-dire sa toute-puissance en tant que Dieu, pour accepter, par amour pour nous, d'être sans défense face à la méchanceté des hommes. Pourquoi le Christ s'est-il incarné ? En prenant l'apparence la plus humble, la plus fragile qui soit, celle d'un petit enfant, et en abandonnant, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, pour un temps, sa gloire céleste. C'est tout simplement, bien-aimé, pour que dans un premier temps, il puisse s'identifier complètement, totalement à la condition humaine, et qu'il en accepte ses limitations. C'est pourquoi les évangiles, eh bien, vous le savez, nous dressent le portrait d'un homme subissant aussi la faim, la soif, qui a vécu avec ses disciples pendant près de 3 ans comme un SDF, hein, littéralement sans domicile fixe, hein, il n'y a aucune connotation dans ce que je dis là. Sur les chemins poussiéreux de Palestine, dépendant souvent de la générosité ou de l'accueil des gens qu'il rencontrait en chemin. C'était cela, une vie d'itinérance que Jésus a vécue. Un homme pleurant devant le tombeau de son ami Lazare et sur l'impénitente ville de Jérusalem. Un homme confronté aux épreuves de toutes sortes et aux tentateurs et endurant même l'incompréhension de tous, a compris, à commencer par sa propre famille. un Christ, homme de souffrance, dont nous dresse le portrait, Isaïe, au chapitre 53, et dont l'apogée sera sa mort à la croix. C'est de cela dont il s'agit ici. Et il fallait que ce soit quelqu'un comme nous, qui nous ressemble. Chacun d'entre nous, ce matin, peut, à son tour, s'identifier quelque peu à lui. Tout ce par quoi nous sommes passés, tout ce à quoi nous sommes confrontés, tout ce à quoi nous aspirons, il connaît ces choses parce qu'il les a vécues, mais de l'intérieur, dans le cadre de son incarnation. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il nous comprend parfaitement, car il a été éprouvé en tout, comme nous, de manière certainement beaucoup plus intense, sans commettre de péché. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous pouvons être assurés d'être secourus dans tous nos besoins. Est-ce que, frères et sœurs, nous sommes conscients de tout cela? De ce privilège que nous avons aujourd'hui d'être enfants de Dieu. Mais il a fallu payer un prix, et pas n'importe quel prix. Il a fallu que le Christ, eh bien, endosse, assure toutes ces choses-là, afin qu'un jour, il meure à la croix et que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, peut-être que ce matin, le Seigneur nous a fixé un rendez-vous. Je ne crois ni au hasard, ni d'ailleurs à la fatalité. Mais je crois à la providence de Dieu. Là, parfois, eh bien, le Seigneur permet, en certains moments, à certaines circonstances, eh bien, de se révéler à nous de manière particulière. Un fils nous est donné. Le Christ dira lui-même un jour, car Dieu a tant aimé le monde, on peut le lire, on peut le réciter. Car Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu, je continue, en effet, n'a pas envoyé son Fils, c'est Jésus qui le dit à Nicodème, dans le monde, pour qu'il juge le monde, en tout cas pas pour l'instant, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si le Christ bien-aimé, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est dans un premier temps pour s'identifier totalement à la condition humaine, mais la finalité de la venue du Christ, eh bien, s'il est venu sur la terre, c'est pour nous sauver. Un sauveur vous est né, le frère l'a lu tout à l'heure. C'était le seul moyen prévu par Dieu pour sauver l'humanité. Et c'est de cela dont il s'agit ici. La mission de Christ était d'accomplir ainsi la volonté parfaite de ce Père, son Père. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est Dieu sauve, Dieu sauveur. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit au chapitre 10, versets 5 à 6, et ça, ce texte-là, il faut lire dans un esprit de méditation, de réflexion devant le Seigneur. C'est pourquoi Christ, en venant dans le monde, c'est-à-dire avant son incarnation, a dit ceci à Dieu le Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. » Alors j'ai dit, « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Voilà le but et la raison de l'incarnation de Jésus. Et à la lumière de cela, je crois qu'il faut se rappeler une chose, frères et sœurs, c'est que Noël et Pâques sont deux événements qui se répondent l'un à l'autre. Pour parvenir à Golgotha, il a d'abord fallu Bethléem. Pour parvenir à la croix, il a d'abord fallu la crèche. Et l'on ne peut s'empêcher ici d'établir un lien très fort entre la signification de Bethléem, c'est-à-dire littéralement maison du pain, et le pain de la Sainte Cène qui représente le corps crucifié du Seigneur. L'ange du Seigneur avait dit en songe à Joseph, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » En conclusion, nous pouvons dire ceci, c'est que l'événement de la croix n'aurait donc pas eu lieu sans sa naissance. Cette dernière, sans la croix, nous aurait seulement laissé l'exemple d'un homme exceptionnel, sans plus. Les deux événements sont indissociables. Les deux événements sont liés dans l'histoire du salut. Car la personne du Christ reste unique. Unique de par son origine, unique de par sa naissance, unique de par ses enseignements, son autorité sur les éléments physiques et spirituels, unique de par sa vie sans péché et par sa mort à notre place, à la croix. Un ancien astronaute a dit ceci, il était croyant, vous comprendrez, certainement vous connaissez cette citation, qui a été sur la Lune, a dit à peu près ceci: le plus grand événement dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la Terre. Le Christ est donc venu parmi nous, a vécu comme nous, afin de mourir pour nous. Mon dernier mot, frères et sœurs, est lié à cette naissance, nous apprend ainsi que l'amour de Dieu est prêt à tout, y compris à venir chez nous, sur cette terre, mais dans nos vies, pour y habiter. Désormais, bien évidemment, avec la venue du Christ, tout était rendu possible, car un chemin d'espérance, nous est désormais ouvert. Alors, puissions-nous peut-être ce matin, si ce n'est pas le cas, accepter avec joie et avec reconnaissance ce merveilleux cadeau que Dieu nous a fait en la personne de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen.
Amen.
Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je voudrais que nous puissions, frères et sœurs, chanter ce chant un peu en réponse au message que nous venons d'entendre au peuple fidèle.